Bienvenue à tous sur le cours de F6KGL. Nous allons avoir ce soir une séance un peu particulière puisqu'on ne va faire que des exercices de réglementation. Voilà. Donc, déroulement de l'examen. Donc, premièrement, je rappelle, c'est l'ANFR qui en France fait passer les examens. Et quand l'ANFR en 2008 donc, a mis en place son logiciel, auparavant c'était Unitel, donc quand l'ANFR a mis en place son logiciel, il nous avait informé que la base de données de questions, enfin tout au moins chaque base de données de questions, tant en réglementation qu'en technique, était répartie en 10 familles. Et que donc, à chaque examen, comme il y a 20 questions, l'ANFR, enfin le logiciel, pioche dans la base de données et prend 2 questions au hasard. Et après, ces questions sont présentées elles-mêmes au hasard au candidat. Et ces 10 familles de questions étaient plus ou moins homogènes. Et donc, voilà, c'est depuis au moins 2-3 ans, on a remarqué que c'est plus vraiment, on n'arrive plus à déterminer exactement les 10 familles. Ça se voit notamment en réglementation, où on a quand même quelquefois 3-4 questions sur les bandes de fréquences, alors qu'auparavant il n'y en avait que 2. Voilà. Donc, ça n'empêche que vous avez très peu de chances d'avoir les 20 questions qui vont être posées sur les bandes de fréquences, mais voilà. Donc il semblerait que le système était plus ou moins débranché. Voilà. À l'examen, vous avez d'abord l'épreuve de réglementation, donc qui dure un quart d'heure, et puis juste après va débuter l'épreuve de technique. Et donc entre les deux, il y a très peu de temps, il devait avoir 30 secondes, le temps que l'examinateur, enfin la personne qui vous surveille, que le surveillant relance ou vérifie que l'épreuve de réglementation s'est bien passée. Voilà, donc, et en tout état de cause, vous ne connaissez pas le résultat des preuves de réglementation à l'issue de l'épreuve de réglementation. Il faut attendre la fin pour avoir les réponses. Sauf qu'en ce moment, avec les problèmes liés à la Covid, il semblerait que dans certains centres d'examen, comme par exemple Nancy, l'examen se passe sur papier, dans sa voiture, et donc voilà, les surveillants ne dépouillent, ne traitent vos réponses que le lendemain, et donc vous ne saurez qu'avec le courrier et votre certificat d'opérateur que vous êtes reçu. Voilà. Donc, mais bon, on va espérer que ça ne dure pas très très longtemps. À Villejuif, il continue de fonctionner à faire passer les examens sur un ordinateur. Et entre chacun des deux candidats, il désinfecte le clavier. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Et peut-être aussi la souris d'ailleurs, je ne sais pas. Pour votre information aussi, il est prévu de modifier le calcul des points. Donc ça, c'est un texte qui a été présenté lors des premiers jets en 2018, et il a été représenté il n'y a pas très longtemps, début octobre, et en tout état de cause, ce texte n'est toujours pas publié au journal officiel, donc il n'est pas applicable. Et quand bien même il était prévu dans la mouture qu'on a vu passer là, que cette modification de calcul des points interviendrait 3 mois après la publication au JO. Donc au mieux, ce texte paraîtrait vers Noël, je pense plutôt premier trimestre 2020, et si bien que le calcul des points, la modification de calcul des points, au mieux ça serait au mois de mars-avril, et je pense plutôt au mois de juin. Donc il y a encore, vous avez encore au moins 9 mois à attendre, enfin tout au moins à avoir toujours le même système de calcul de points. Rappel calcul de points, c'est 3 points pour une bonne réponse, 0 point pour pas de réponse et moins 1 point pour une réponse mauvaise. Donc c'est très handicapant et il ne faut surtout répondre qu'aux questions dont on est certain. Pour s'entraîner, il existe une suite de logiciels qui s'appelle Examen. Alors pourquoi suite? Parce qu'en fait, ça utilise la même base de données de questions, et évidemment, et de réponses, hein, c'est la même base de données, ce sont les mêmes images qui sont présentées, les mêmes questions, et c'est les mêmes commentaires aussi. Voilà, donc ces trois versions, la version originale, c'est celle qu'avait imaginée René F5AXG, qui est décédé en 2013, donc c'est quand même un certain temps. Et qui a été donc en 2008, au moment où l'examen est passé sous ordinateur, hein, puisqu'auparavant, l'examen était, alors pour les anciens, les très anciens, l'examen c'était un logiciel qui fonctionnait sous DOS, et ça allait très bien avec le Minitel. Et quand en 2008, la NFR est passée dans le joyeux monde Windows, eh bien, René a remis à jour son logiciel et est passé sous un logiciel de développement qui s'appelle WinDev. Donc évidemment, WinDev ne marche que sur Windows. Et une fois, oui, une fois la parution du texte, ça faut encore un peu de temps, le moins un point en cas de mauvaise réponse sera disparu. Alors le logiciel ne peut pas moins 4, moins 3 points si on répond mal. Hein. Il n'y a aucun des logiciels. Non, 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 non. On va voir tout à l'heure les calculs qu'ils font. Donc première version, ça c'est celle de 2008. Voilà. Ça, 2018. Donc 10 ans après, on a une version full web qui a été développé. On va les voir chacune les unes à côté des autres. Et tout dernièrement, là-haut, à l'été dernier, on a une version maintenant Android. Il y avait déjà une version Android, mais qui n'était pas extraordinaire et qui, voilà, qui posait quelques problèmes. Maintenant, on en a une version qui ressemble beaucoup à la version web. Voilà, je vous ai mis les liens là, au cas où ça vous intéresse. De toute façon, les liens, ils sont sur le site du Radio Club. Donc voilà, vous pouvez trouver ça facilement. Donc Examen, c'est le logiciel original qui a été développé par René. René qui nous a quittés en 2013. Et le site internet où il y avait le logiciel a été fermé en mai 2019 parce que son épouse n'a pas voulu renouveler l'abonnement. Au FAI, voilà, je cherchais le nom. Et donc, voilà, le ce logiciel, ça fonctionne de la même manière. Alors déjà, il y a une notice d'utilisation et qui permet aussi une notice d'installation. Donc, ça vous permet de savoir comment l'installer. Ça se fait relativement simplement, mais voilà, c'est faut faire attention. Il y a un programme qu'il faut d'abord installer, voilà, simplement parce qu'on fait suivant à chaque étape et généralement ça se passe bien. Et la base de données, c'est un deuxième fichier qu'il faut décompresser dans le même répertoire que celui où on a installé le logiciel. Voilà. Et donc normalement tout se passe bien. J'ai jamais vu de problème et ça marche aussi sous Windows 10, ça ne marche que sous Windows ou sous un émulateur Windows, évidemment. La version web, elle a été développée donc, par Valentin, F4HVD, qui fait partie du Radio Club, enfin Alors ça, c'est ADRI, donc c'est l'association des radioamateurs de l'Isère, association départementale des radioamateurs de l'Isère. Pour ça que c'est 38. Et donc, ce logiciel est installé sur le serveur du REP, donc à cette adresse-là, tout simplement. Et vous avez une petite présentation de ce logiciel qui est disponible sur le site du Radio Club. Donc vous avez cette application utilise la même base de données que la version Windows. Et donc c'est une application full web, c'est-à-dire que vous n'avez strictement rien sur votre PC, à part l'historique de navigation, puisque c'est avec l'historique de navigation que va se faire notamment la mémorisation des scores que vous avez obtenus ou des questions sur lesquelles que vous avez répondu. Voilà, donc si vous faites du ménage dans votre historique de navigation, bah, évidemment vous perdez toutes les données. Voilà, c'est un peu. Voilà, il faut le savoir. En revanche, toute la base de données des questions, elle reste sur le cloud, comme on dit. Voilà. Et puis la toute dernière version de cet été. Alors c'est une version qui est maintenant sur Google Play. Et voilà. Alors juste un truc, à la première utilisation, il y a la base de données qui va être téléchargée. Donc ça prend un peu plus de temps. Après, ça ne prend pas de temps du tout. Enfin, c'est très rapide. En revanche, faites très attention si vous cliquez sur le cours en ligne, parce que le cours en ligne, ça va chercher sur le cloud, encore une fois, sur le site internet du Radio Club. Et donc à chaque fois que vous cliquez sur ce lien, ça télécharge quelque chose comme 5 mégas de données. Donc faites attention quand même de ne pas cliquer trop de fois, surtout si vous n'êtes pas en Wi-Fi, parce que sinon vous allez exploser votre forfait. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous ont des forfaits illimités, mais bon. Et du coup, ça met un peu de temps quand même à venir, parce que ça télécharge la page complète avant de pointer au bon endroit. Voilà. Et on a le même problème avec la version web. Sauf que la version web, il la met aussi dans l'historique du navigateur, et donc il va la télécharger qu'une seule fois. Voilà. Une fois l'examen passé, ça c'est important. Une fois l'examen passé, ça serait bien de remonter les questions qui vous ont été posées, parce que c'est avec ces comptes rendus et ces témoignages que je peux mettre à jour la base de données des questions. Donc c'est ça quand même important que vous le sachiez, parce que derrière, si on n'a pas cette information, voilà. C'est un peu dommage, ça permettrait d'aider tous ceux qui derrière vont vous suivre. Voilà. C'est pour ça que j'incite à chaque fois d'avoir le maximum d'informations sur les questions qui ont été posées et sur les réponses, évidemment, parce que quelquefois, en technique ça va encore, parce que c'est des calculs, je sais faire des calculs un peu piégeants. Quand c'est en réglementation, quelquefois, même les réponses, les bonnes comme les fausses, peuvent comporter des pièges. Voilà. Toutes ces questions, depuis 2003, on a commencé quand même, donc ça fait quand même, on commence un peu à avoir un peu d'expérience. Donc toutes ces questions, elles ont été recensées dans deux documents. Donc pour la partie réglementation, là, c'est les questions qui s'appellent, enfin le fichier qui s'appelle règles sur notre site internet. Et donc il y a toutes les questions des réglementations qui ont été posées depuis l'origine. Et donc ça fait quand même 600 questions, 70 pages. Voilà, donc, et c'est ce que je vous présente à chaque fois à la fin des cours. C'est quelques questions de cette base de données. Donc, si ça vous intéresse, vous téléchargez et ça vous permet au moins d'avoir une idée sur toutes les questions qui ont été posées à l'examen un jour ou l'autre. Voilà, je vous ai mis là sur la page du site, la page du site internet où il y a ça. Je vais rapidement, tout à l'heure, je vais vous montrer où c'est. Donc évidemment, ces trois versions sont à utiliser sans modération. Idéalement, il faudrait commencer par écouter toutes les vidéos des cours pour ensuite faire des examens. Commencez pas tout de suite les examens parce que des fois, vous n'allez pas comprendre la question, surtout en réglementation, parce que des fois, il y a des questions tordues et donc on ne comprend même pas de quoi on cause. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est du fait du calcul de points, l'objectif c'est d'avoir au moins, alors je dis 39 sur 60, on va dire 40 sur 60, c'est-à-dire grosso modo 13 sur 20 à chaque épreuve. Pourquoi? C'est que le jour de l'examen, vous pouvez être un peu stressé, enfin, ça dépend des gens, hein. Mais vous pouvez être un peu stressé et surtout, il y a sûrement ou peut-être des questions qui n'auront pas encore été recensées et que voilà, et des questions à piège. Donc voilà, c'est important quand on s'exerce, d'avoir au moins ce score-là pour être serein quand on passe l'examen. Évidemment, le logiciel, quelle que soit la version, on peut corriger ses erreurs, donc il faut corriger ses erreurs et vérifier aussi la progression, c'est-à-dire qu'on a un historique, toutes les versions proposent un historique des épreuves qui ont été passées. Voilà. Important aussi, surtout pour la réglementation, les trois versions proposent des séries ciblées. Et donc, voilà, c'est intéressant quand on veut bachoter sur un sujet particulier. Faut pas non plus trop exagérer, parce que si on ne fait que des séries sur le code d'épellation, qui est relativement simple, c'est un peu bête. Voilà. Et donc, à la suite, on va essayer de trois épreuves. On va voir peut-être une quatrième, je ne sais pas. Mais bon, trois, ça serait déjà bien, dans chacun des logiciels. Alors, avant, je vais vous présenter quand même, si ça ne veut pas se planter, je ferai Mému à la fin, puisque c'est le dernier. Alors, Firefox, ça vient, ça vient. Voilà, alors je vous présente Firefox, donc c'est le site de F6KGL, hein. Donc ça c'est la page d'accueil, c'est un temps fou à dire, mais bon, peu importe. Et ce qui est important, voilà, c'est les cours, et donc ici la formation, enfin c'est là où vous allez trouver toute la documentation et notamment le cours en ligne et les fichiers, je vais vous les montrer. Donc le live, on s'en fout. Voilà, ici vous avez le cours en PDF, ici le cours en ligne et un peu plus bas, voilà, les textes réglementaires français au format PDF, ça va vous moins vous intéresser, mais c'est surtout les questions de l'épreuve de réglementation qui sont ici. Voilà. Et donc ça, vous allez trouver toutes les questions sur ce fichier que je vais vous ouvrir. Si ça, voilà. Donc ça, c'est toutes les questions qui ont été recensées. Donc il y a 70 pages. Donc voilà, ça. Il y a du monde. Et enfin, deuxièmement, il y a, on revient sur les cours, et vous avez un peu les cours et les logiciels examen, donc ils sont tous là. Donc faut descendre un peu en bas. Ici, vous avez le logiciel examen qu'il faut cliquer ici pour le télécharger. Et ici, la base de données qui est ici. Et ça, c'est la présentation. Et en dessous, vous avez ici la version Android pour télécharger la version Android de Maxime. Et en dessous, là, c'est pour la version web, pour se connecter à la version web. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, ma fille. On va se lancer dans la version examen. On va les faire dans l'ordre d'apparition, je dirais. Donc je reviens ici sur mon PDF. Je coupe ici Firefox et je lance examen. C'est parti. Donc voilà le logiciel. Ici, c'est là où vous allez avoir l'intégralité de vos scores, je dirais, et voir votre progression. La gestion des erreurs, ça vous verra rapidement. Quand vous avez une question qui vous semble bizarre, vous cliquez sur la question et ça atterrit dans cette base de données. Ici, c'est toutes les questions que vous avez déjà eues. Et ici, la visualisation de la base de données. Voilà. Ça, bah, évidemment, au revoir. On a bien compris ce que c'était. Pour lancer un questionnaire, bah, on clique là-dessus. Alors là, vous n'allez pas voir parce qu'il y a menu. Donc, il faut sélectionner l'épreuve numéro 3, réglementation. Sélectionner un candidat au préalable, puisque faut le faire. Sinon, faut cliquer sur liste des candidats et en désigner un, en créer un, et valider pour commencer l'épreuve. On commence l'épreuve et donc ça y est, c'est parti. L'écran qui était, vous voyez pas, est revenu là. Alors, on va se les faire dans l'ordre. On va se les faire dans l'ordre. Alors, dans quel cas un radioamateur a-t-il le droit d'émettre hors du périmètre de la disposition S156 du RR de l'UIT? Alors, donc les trois réponses sont lorsqu'il a passé son examen il y a plus de 10 ans et qu'il n'a pas fait l'objet d'un rappel au règlement. En cas de catastrophe, en cas de guerre, lorsque le téléphone ne fonctionne pas. Ben évidemment, généralement, en cas de guerre, la première chose que font les autorités, c'est qu'elles interdisent le trafic radioamateur. Voilà, comme ça, c'est peinard. Donc, en fait, la bonne réponse, c'est en cas de catastrophe, puisque c'est le seul cas où, puisque le 156, en fait, il dit, ben, c'est pour c'est pour l'instruction individuelle. Voilà. Donc ça ne peut être que en cas de catastrophe. Donc c'est une question à la noix, je suis d'accord, mais c'est la réponse. question suivante. Alors, à l'examen, c'est donc à la souris qu'il faut y aller, comme je le fais moi, et aucune touche clavier. Il n'y a pas de touche raccourci clavier pour y arriver. Le seul raccourci clavier, entre guillemets, c'est pour aller une question, et donc on utilise le pavé numérique. Et à l'examen, vous allez avoir un écran qui ressemble beaucoup à celui-là. Et ici, vous avez le temps qui défile. Alors, renseignement obligatoire dans le journal de bord. Le lieu d'émission, s'il est différent de la station fixe. L'heure locale de votre correspondant. La fréquence utilisée. Le lieu d'émission de votre correspondant. Alors, l'heure locale de votre correspondant, on s'en fout complètement. Ce qui vous intéresse, c'est l'heure locale chez vous. Enfin, l'heure chez vous, alors qu'elle soit locale, GMT, peu importe. Ce qui est important, c'est d'utiliser toujours la même heure. Dans le texte, il est écrit qu'il faut consigner date et heure, mais sans plus de précision. Donc, on peut imaginer que ce soit l'heure locale ou l'heure GMT, comme vous voulez. Moi, je vous conseille d'utiliser l'heure GMT. Pourquoi? C'est que derrière, quand vous faites vos QSL, vous allez utiliser cette heure GMT pour écrire l'heure. Donc, autant utiliser le même système. Ça évite comme ça de se tromper. Voilà, donc ça doit être 1 et 3. Voilà, puisque là, il faut aller déterminer quelles sont les trois, enfin les bonnes réponses là-dedans. C'est une question à tiroir, ça. Quelle attitude devez-vous adopter sur la portion 1240-1260 mégas si un utilisateur primaire vous demande de cesser vos émissions? Vous cessez vos émissions sur ordre de l'ARCEP, vous cessez vos émissions sur l'ordre de l'ANFR, vous cessez vos émissions sans délai, vous ignorez cette demande. Alors déjà, l'ARCEP ou l'ANFR ne vous donnera jamais d'ordre, comme ça vous êtes tranquille, et je ne vous conseille pas d'ignorer cette demande. Donc voilà, vous cessez vos émissions sans délai. Voilà, c'est bête. Alors concrètement, j'ai jamais vu le cas. Mais pourquoi pas? Quelle est la bande passante? Alors ça fait partie des questions techniques de la réglementation. Parce qu'il y a quelques questions techniques hein, qu'on a vues les deux derniers cours. Et donc, voilà. Quelle est la bande passante? Donc là, on va demander quelle est la largeur de la bande passante. Et donc la largeur, c'est 740 moins 720, ça fait 20. Et voilà, et c'est ni 720, ni 730, ni 740. 720, 740, ce sont les extrémités de la bande passante, et 730, c'est le milieu de la bande passante. Et ce que l'on demande là, c'est quelle est la bande passante? Donc, la largeur de la bande passante. Et donc, c'est 20. Définition de la classe d'émission A3E. Alors, on y va. Téléphonie, modulation d'amplitude, double bande latérale. Téléphonie, modulation d'amplitude, bande latérale unique, porte supprimée. Téléphonie, modulation de fréquence. Télévision, modulation d'amplitude, double bande latérale. Alors déjà, E, c'est téléphonie. Là, et A, c'est modulation d'amplitude, double bande latérale. Donc ça ne peut être que celui-là. Téléphonie avec la BLU, ça serait J3E. Téléphonie modulation de fréquence, ça serait F3E. Et télévision modulation d'amplitude double bande latérale, ça serait A3F. Et d'ailleurs, au passage, il ne faut pas utiliser du A3F parce que ça prend énormément de place. Donc on va utiliser de la modulation d'amplitude avec une bande latérale un peu réduite. Donc ça ne sera pas le code A. Alors celle-là, ça c'est donné ça. En alphabet phonétique, comment épelle-t-on les lettres L et O? Donc c'est Lima et Oscar. Lima et Oscar. Les rayonnements non essentiels, c'est quoi? Alors ça, c'est une bonne question. Les émissions non désirées qui ne sont pas dans le domaine des émissions hors bande. Les émissions résiduelles en dehors des bandes attribuées au radioamateur. Les émissions en dehors de la bande passante de l'émission fondamentale et des émissions non modulées. Je vous propose de passer ça et on verra tout à l'heure plus précisément avec un graphique et les définitions. Voilà. Donc ça c'est question assez tordue, mais prend du temps. Et quand on, je rappelle, hein, c'est 15 minutes, on a fait que cette question, là on est presque à la moitié du temps. Étendue des ondes myriamétriques. Myriamétrique, alors un myriamètre, à la Révolution française, c'était l'équivalent, enfin, c'est ce qui avait remplacé la lieue à la Révolution française. Et le lieue, c'était la distance qu'on parcourait à cheval en une heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on parcourt à cheval en une heure? Ben, c'est 10 km. Et donc, les ondes myriamétriques, elles s'étendent de 10 km à 100 km. Hop. En alphabet phonétique, comment épelle-t-on les lettres H et S? Alors ça, c'est encore donné. C'est Hôtel et Syrah. Ça, c'est à connaître par cœur. Quelles sont les limites de la bande LF, donc les low frequencies? Alors les low frequencies. Alors, quelles sont les limites de la bande LF? Alors ça, il y a eu un mélange de questions à mon avis là. Parce que... Ah non, quelles sont les limites de la bande LF? C'est-à-dire que dans ces bandes-là, il y a une bande LF. Et la question, c'est laquelle c'est? On va passer parce que je sèche lamentablement. Dans la classe d'émission D7D, que signifie la première lettre? Donc celle-là. Le D. Le D, c'est pareil, on va passer. Parce que ça fait partie, ça, des classes d'émission un peu tordues. Donc ça, cette première lettre, là, ça va être donc la modulation. Donc ça ne peut être que soit modulation d'amplitude ou modulation d'amplitude et angulaire. Mais en tout cas, transmission de données, c'est le D, c'est le deuxième D, et plusieurs voies numériques, c'est le 7. Voilà. Donc 7 ici, par élimination. Ça ne peut être que celle-là. Mais je ne vais pas tenter. Je ne tente pas le coup. Quel est le code pour Êtes-vous prêt? Pour Êtes-vous prêt, c'est QRD. Pareil, le code Q, c'est quelque chose à apprendre par cœur. Avec quoi mesure-t-on les harmoniques? Un wattmètre, un voltmètre, un analyseur de spectre ou un rossmètre? Eh bien, on ne peut les mesurer qu'avec un analyseur de spectre. Et encore, faut avoir quelque chose quand même d'assez pointu pour pouvoir les mesurer. Que signifient les lettres RX? Alors ça fait partie, ça, des abréviations qui normalement devraient avoir disparu, puisque ça faisait partie des abréviations du code Morse. Quel code Morse? Ben, il est plus passé. Donc normalement, ça aurait dû disparaître. Voilà. Mais il y a toujours quelques questions là-dessus. Généralement, ça porte pas sur RX, ça porte sur PSEPs. Enfin, RX veut dire Receiver. Les autres propositions, résistance de valeur inconnue, reçue d'un OM non connu, ou quel est votre prénom? Non. RX, c'est le récepteur. Et le point d'interrogation, là, en fait, il est mal placé. Parce que c'est pas l'ensemble RX, c'est quelles sont les lettres RX entre guillemets, point d'interrogation. Quelle est l'impédance d'un quart d'onde sur un plan de 90 degrés? Donc là, on va vous demander l'impédance d'une antenne. Cette antenne, donc, c'est un quart d'onde. Et s'il est sur un plan de 90 degrés, ça veut dire que le plan de sol est perpendiculaire au quart d'onde, tout au moins, oui, perpendiculaire. Et donc l'impédance, elle est de 36 ohms. Que signifie un indicatif sous la forme F5VYX? Alors ça, c'est un indicatif de quelqu'un qui n'a pas passé l'examen en France, qui l'a passé à l'étranger, et qui est là pour plus de 3 mois, mais la France a cette particularité. C'est qu'elle dit, si vous avez passé votre examen à l'étranger, enfin tout au moins à l'intérieur de la CEPT, dans un pays qui applique la TR 6102, donc une recommandation CEPT, eh bien vous n'avez pas à passer d'examen en France, on vous croit, et on va vous donner un indicatif, mais d'une série particulière, parce que voilà, vous n'avez pas passé l'examen en France. Et quand on a un V, ça veut dire qu'on vient d'un pays de l'Union européenne. Donc c'est un radioamateur étranger qui réside en France. On n'est pas spécialement. Alors, c'est pas exactement étranger, c'est pas exactement le terme. C'est-à-dire qu'on peut être français, avoir passé son examen, je dis n'importe quoi, en Belgique, et eh bien en fait, on va, quand on vient en France, comme on a passé l'examen en Belgique, eh bien, on va avoir un indicatif F5V quelque chose. Voilà. Ça, notamment, il y a aussi des gens qui étaient partis travailler au Canada, qui ont passé leur examen au Canada, qui sont venus en France pour la retraite, et qui, du coup, ils se récupèrent un indicatif avec, là, en l'occurrence, un W, puisque c'est le Canada. Voilà, il y en a quand même quelques-uns. Ah, reste 2 minutes. Ah là, oui, il faut se manier les fesses. Une antenne GP, c'est quoi? Eh bien, c'est une antenne qui n'a ni gain ni directivité. Parce que généralement, le gain et la directivité, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de directivité. Parce que les réponses, c'est quoi? C'est elle a du gain et de la directivité. Elle a de la directivité, non, elle n'a ni gain ni directivité. Généralement, gain et directivité, ça va ensemble. Bah, trop tard. Allez, question suivante. Avant le top, et là, c'est trop tard. Donc, il va nous rester cette question. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est très, très court. Voilà. Donc, faites très attention parce que ça va une vitesse, ça va une très grande vitesse. On voit les résultats. Bon, ça va. On n'est pas trop mauvais. On n'a pas répondu. Alors 39 sur 60, c'est pile poil ce qu'il faut. Hein, pour marquer. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Voilà. On peut regarder les réponses. Donc là, vous avez la manière de calculer. Donc les bonnes réponses. 13 fois 3, 39. J'ai pas eu de mauvaise réponse, donc j'ai pas de point négatif. J'aurais pu, histoire de pour le fun, en faire une, mais bon, voilà, j'aime pas. J'ai pas eu de mauvaise réponse et j'ai eu que des questions manquantes. Voilà. On peut les voir rapidement, donc c'était 6, 7, 10, 11. Ah, il faut que je sauvegarde avant l'épreuve, j'ai eu un message. Voilà. et on peut voir les réponses. Donc en fait, on défile. Donc on va aller à la 6. Voilà, la 6. Ah, non. Ça devait pas être la 6, c'est la 7. Voilà, les rayonnements non essentiels. C'était la 7. Là, j'ai peut-être pas répondu, là, peut-être. Bah, si, pourtant. Bon. Ah bah non, j'ai pas répondu là. Ah, puisque là c'est ma. Ici c'est ma réponse et ici c'est la. C'est la réponse. Enfin, la bonne réponse. Donc voilà, j'avais pas répondu à celle précédemment, c'est très bête. Les rayonnements non essentiels ce sont les émissions non désirées qui ne sont pas dans le domaine des émissions hors bande. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, alors vous pouvez éventuellement enregistrer l'erreur. Là, j'enregistre cette question. Et je peux regarder le commentaire. Est-ce que le commentaire s'affiche là? Non, il ne s'affiche pas. Voilà, comment je peux faire pour qu'il s'affiche? Il faut voir le cours en ligne. De toute façon, c'est marqué, il faut voir le cours en ligne. Donc, on peut éventuellement faire un copier-coller. Je ne suis même pas certain que ça marche. Si je fais un copier-coller, est-ce que ça va marcher? Non, le copier-coller ne marche pas. Donc, ça commence mal. On verra cette option de commentaire et de lien directement sur avec Internet Explorer avec la version web. Donc les émissions, ces émissions là, ce sont des émissions non désirées, donc elles sont non désirées, qui ne sont pas dans le domaine des émissions hors bande. Les émissions hors bande, ce sont les émissions qui sont juste à côté des émissions non désirées, mais pas encore dans le domaine des rayonnements non essentiels. Ouais, donc on peut reprendre, alors attendez, je vais essayer de retrouver le cours qui parle de ça. Est-ce que j'ai le cours dedans? Hop. Je vais revenir sur le PDF. PDF. Voilà. Toc. Donc je vous rappelle quand même ces histoires d'émissions en bande. Je vais le mettre plus gros parce que c'est un peu petit comme truc. Ah, trop. Alors, il est passé où ce truc-là? Non, il doit être dans l'autre sens. On va y arriver. Voilà. Voilà, un peu trop gros. Ouais. Chaque fois ça se décale, ça le bête. Voilà, donc ça c'est l'émission que j'ai, enfin, c'est mon émission, donc c'est ma bande passante, donc, la bande passante de l'émission que je suis en train de faire, donc c'est ma bande passante. Ici ce sont les émissions hors bande. Donc, alors, pardon, on commence les émissions non désirées, puisque ça, c'est ce que je veux émettre. Donc, par définition, tout ce qui n'est pas dans cette portion-là, ce sont des émissions qui sont non désirées. Et donc, elles sont en dessus et en dessous de cette bande passante de l'émission que je veux émettre. Et mes rayonnements non essentiels, ce sont ceux-là. Donc ceux qui ne sont pas complètement contre ma bande passante, et qui sont dans ce qu'on appelle les émissions hors bande. C'est-à-dire que ce sont des... Il y a un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de ma bande passante, là, qui bave, là, puisque là, ça, c'est mon niveau de puissance. Il est encore assez élevé dans les émissions en vente, mais quand il arrive ici dans le domaine des rayonnements non essentiels, il doit être atténué ici de ma fameuse formule, la 43 décibels plus 10 logs de P. C'est valable aussi, évidemment, de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est bien quelque chose qui... donc la définition, quand on reprend la définition du texte là, ce sont les émissions non désirées qui ne sont pas dans le domaine des émissions hors bande. Voilà. Les autres questions, qu'est-ce que j'avais, auxquelles je n'avais pas répondu? Ah bah oui, c'est celle-là. Ah, raté. Précédent. Donc la limite de la bande qui se trouve la seule dans les low frequency, c'est cette bande ici, 135,7 à 137,8 kHz. Inutile de vous dire qu'on ne peut faire que la transmission de données ou du morse sur cette bande-là, parce que vous voyez, il n'y a pas grande largeur de bande et on peut difficilement faire de la BLU là-dessus. Tout au moins, si on fait de la BLU, on utilise toute la bande. Autre question, le D, là, je voulais répondre, mais je n'avais pas répondu intentionnellement, c'est bien modulation d'amplitude et angulaire. Et enfin, les trois dernières, qu'on n'a pas eu le temps de regarder, on va les regarder rapidement. De quelle région font partie les îles Crozet? Ben, les îles Crozet, il faut savoir où c'est déjà sur une carte. Et ben, c'est en région 1. Voilà, donc pas évident, mais ensuite on a une question sur l'impédance du câble pour une adaptation entre 25 ohms et 100 ohms. Alors ça fait partie des questions de technique, on l'avait un peu évoqué la semaine dernière, ça. D'ailleurs avec ce calcul, alors il y a Claude qui dit, et ça je vais le, il y a un bug réponse manquante, il est écrit moins 3 points par mauvaise réponse et moins 4 points par réponse. En fait, ça c'était René qui partait du principe que il comptait le nombre de réponses que vous aviez faites. Et il mettait donc, il multipliait par 3. Mais si vous aviez des questions qui étaient fausses, du coup, il fallait retirer 4 points, puisque vous n'aviez pas vos 3 points, c'est normal, mais vous en retiriez 1. Et donc, c'est pour ça cette origine de... des moins 4 points que vous continuez à traîner. C'est que la manière dont il calculait, lui, il calculait le nombre de questions auxquelles vous aviez répondu, bonne ou pas bonne, on s'en fout, et ensuite il retranchait 4 points par mauvaise réponse. Puisque si vous avez une mauvaise réponse, vous n'avez pas les 3 points, et en plus vous perdez un point parce que le moins 1 point. Donc c'est pour ça. Donc donc une mauvaise réponse, ça ne rapporte que moins un point. mon impédance, c'est donc la racine carrée de 25 fois 100, c'est-à-dire 50. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez dans le commentaire, mais je ne vous clique pas sur le commentaire parce que vous n'allez pas le voir. Et enfin, une question assez longue. Un émetteur d'une puissance de 10 watts alimente une antenne qui a un gain de 9 dB. Le coaxial d'une longueur de 30 mètres a une perte de 0,1 dB par mètre. Donc, ça veut dire que le coaxial ramène une perte de 3 décibels. Hein, 30 fois 0,1, ça fait 3 décibels. Et donc, la PAR, qui est donc la puissance de sortie d'émetteur multipliée par le gain apporté par l'antenne moins la perte apportée par le câble, ce qui fait 6 dB, hein, 9 moins 3, ça fait 6. 6 dB, ça correspond à un rapport de 4. Donc, 4 fois 10 égale 40. Voilà. Et on a vu l'intégralité de nos 4 réponses. On peut enregistrer l'erreur si on veut. Hop. Toc. Et on revient au menu par là. On va sortir, on va faire une série sur la version web. On va essayer de la faire un peu plus rapidement que celle-ci. Alors, la version web, le temps que je la monte. Comme j'avais tout coupé. Voilà. Examen web. Voilà, donc voici la version web. Alors, ce que l'on va faire, c'est donc ça. C'est donc une épreuve de réglementation. Et là, donc, je coche réglementation pour avoir l'intégralité des questions de réglementation, mais je décoche technique. Voilà. Parce que le dernier examen que j'ai dû faire, c'était un examen de technique. Donc ça garde finalement le dernier paramétrage que j'ai utilisé. Je n'affiche pas les réponses, évidemment, je n'affiche pas les commentaires non plus. Question suivante automatique non plus. Et j'ai bien un malus pour un point, pour une mauvaise réponse. Et j'active le compte à rebours. Parce que soit je donne le temps, je donne le temps depuis le début, ou au contraire je fais un compte à rebours. Et là, je sélectionne 30 minutes, 15 minutes pardon, pour ma partie réglementation. Ça se fait pas automatiquement, alors que dans la version Windows, le temps se met automatiquement selon ce que vous définissez réglementation ou technique. Voilà, donc si vous voulez faire des séries d'examens sur des sujets ciblés, en fait, il suffit de cocher juste les thèmes que vous voulez aborder, et les thèmes, ils peuvent être de réglementation et ou de technique. Qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant? Documentation PDF du site. Il y a un mode sombre, donc là je l'ai dit en mode sombre, mais si vous voulez, là, alors là ça pète là, quand on le met en mode clair. Je préfère le mode sombre, il est quand même plus sympathique. Voilà. Et en plus, ça doit moins consommer votre tablette si vous êtes sur une tablette. On commence. Ah bah. Alors là, celle-là, on va la passer parce que, pour le coup, alors c'est une question qui a vraiment été posée, hein, évidemment, mais elle est vraiment hors programme. Donc, on n'y répond pas, on viendra dessus à la fin pour voir la réponse. Est-ce que ça fonctionne? Je regarde juste. Encore une question à la noix. Calculer la longueur d'onde de la fréquence 24937, vous remarquez que c'est une fréquence radioamateur sans lettres. Hein. Voilà, et ça, c'est donc le 12 mètres. Quel est le code pour QSO? En fait, que veut dire QSO? Pouvez-vous retransmettre gratuitement? Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte? Dois-je cesser la transmission ou pouvez-vous communiquer directement avec un autre opérateur, une autre station? QSO, c'est pouvez-vous communiquer directement? C'est pas exactement ça dans le trafic radioamateur. QSO, c'est un contact. C'est un contact direct, évidemment. Alors, émission télégraphique code morse automatique, comment est-elle désignée si la porteuse principale est modulée en fréquence et sans sous-porteuse modulée? Alors, donc émission en télégraphie, code morse automatique. Donc ça finit par un B. Comment est-elle désignée si la porteuse principale est modulée en fréquence et sans sous-porteuse modulée? Donc en fait, ça ne peut être que ça. F1B. Ça, c'est des questions tordues. Je ne me reconnais pas. En France métropolitaine, quel est le statut de la bande dite des 80 mètres? Elle est partagée à égalité de droit. Les rayonnements non... Ah, voilà les rayonnements non essentiels. Comme ça, on va pouvoir aller tout à l'heure montrer que ça marche bien, que ça va directement au bon endroit. Donc, ce sont les émissions qui ne sont pas dans le domaine des émissions hors bande. Alors, est-ce que c'est la bonne? Ouais. Vous contactez un radioamateur dont le préfixe commence par HB0. De quel pays est-il originaire? Alors ça, faut le savoir. C'est du Liechtenstein. Voilà. HB9 Suisse, HB0 Liechtenstein. Ce que je rappelle, le Liechtenstein est un statut très spécial, c'est un canton suisse qui est autonome. Donc HB, c'est toute la Suisse. Et donc HB0, c'est le Liechtenstein. Les ondes métriques sont comprises entre quoi et quoi? Donc métrique, ça commence à 1 mètre et ça finit à 10 mètres. Alors évidemment, 1 mètre à 10 mètres, c'est 1 mètre à 10 cm, mais 1 mètre à 10 mètres, il est là, mais donc pas dans le bon sens. Entre 10 mètres et 1 mètre. Quel est le but du radioamateurisme? Instruction individuelle des techniques radioélectriques, vendre du matériel d'émission, émettre sur la bande FM, ou contacter des amis. Et évidemment, instruction individuelle, ça c'est la définition du S156 du RR. Et qui est d'ailleurs rappelé dans tous les textes européens et français. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer les harmoniques? On a déjà vu celui-là, c'est l'analyseur de spectre. C'est pas un fait exprès, hein. J'ai pas réutilisé la même base de données. Mais c'est quand même drôle que sur les 600 questions de la base de données, on retombe sur les mêmes. Quelle est la couleur d'un conducteur protection d'un câble secteur à 3 conducteurs? Alors, quand vous faites de l'électricité, ce qu'on appelle le conducteur de protection, c'est le jaune-vert. Le bleu, c'est neutre, et celui qui est rouge ou marron, c'est la phase. Voilà, il y a les 4 couleurs sont là. Donc rouge ou marron, ça c'est la phase, bleu c'est le neutre, et jaune-vert c'est le fil de protection, la masse. Quel est le code pour QTH? QTH, c'est donc, alors, QTH dans le langage radioamateur, c'est grosso modo la ville où on habite. Mais QTH, en fait, quand tous les codes QUS, l'origine, c'est plutôt du radio maritime ou de l'aéronautique. Donc QTH signifie totalement autre chose, et notamment radio maritime comme en aéronautique d'ailleurs. Ça permet de demander la position et la position en longitude et en latitude. Épellation de FW9 WGM. Alors évidemment, c'est un indicatif complètement pipeau qui ne pourra jamais être attribué, mais bon. Donc le F c'est Foxtrot, donc tout le monde sauf celui-là. W c'est Whiskey, le voilà. 9, ah, ok. Ensuite on a un Whiskey. Donc le Whiskey, me voilà là. Puisque là il manque le Whiskey. Là c'est Washington, c'est pas bon. Golf, Mike, donc c'est celui-là. Il faut contacter un radioamateur dont le préfixe commence par SP. De quel pays est-il originaire? SP, c'est Pologne. Ça, c'est à connaître par cœur, désolé. Et là, j'ai pas de moyens mnémotechniques. En France métropolitaine, quel est le statut de la bande dite des 2 mètres? C'est un statut exclusif. Donc c'est ni partagé, ni secondaire, ni égalité de droit, ni statut précaire et révocable. C'est un exclusif. À quelle lettre correspond à de la modulation d'amplitude BLU avec porteuse supprimée? Donc là, c'est la modulation. Et la modulation, donc c'est la première lettre de ma classe d'émission. Et donc BLU, bande latérale unique avec porteuse supprimée, c'est le J. Et à porteuse réduite, c'est le R. Et avec porteuse, c'est le H. Et il n'est absolument pas utilisé par les radioamateurs. C'est utilisé ça en radio maritime. Enfin, c'était utilisé en radio maritime. Que se passe-t-il si on ajoute des éléments parasites de chaque côté d'un doublet demi-onde? Alors, premièrement, il ne se passe rien. Alors, le tout, c'est de savoir de chaque côté, de quel côté on parle. À mon sens, c'est devant et derrière. On va voir. Le doublet demi-onde ne fonctionne plus. On crée de la directivité. Le doublet demi-onde devient une antenne verticale. Non, en fait, on va créer de la verticalité, de la directivité. C'est comme ça que sont constituées les antennes dites Yagi, donc directives, avec des parasites devant et derrière. Et le côté étant devant et derrière. La question est peut-être mal posée là. On peut se dire, mais le côté, quel côté? Une perturbation radioélectrique est conduite quand elle est propagée par un conducteur électrique, un champ électrique, le corps humain ou un champ magnétique. Elle est dite conduite quand ça passe par conducteur, justement. Voilà. En alphabet international, quel est le code pour V? Alors là, Victor, ça c'est une question donnée. Avez-vous le droit de recevoir d'un radioamateur un message relevant de la vie privée d'un tiers pour le retransmettre à un autre radioamateur? Normalement non. Et pourquoi? Avez-vous le droit? Donc il y en a un qui dit oui. Parce que le message n'est pas destiné à moi-même. Mauvaise réponse. Oui, des informations d'un radioamateur destinées à un autre radioamateur peuvent être transmises à ce dernier. Je le sens mal. Parce qu'en fait, je rappelle quand même la définition des radioamateurs, c'est communiquer pour l'instruction individuelle. Donc c'est pas un moyen, on remplace pas la poste ou le téléphone. Et autre réponse, non, des informations relevant de la vie privée ne doivent pas être transmises, ça me va bien. Et non, des informations d'un radioamateur destinées à un autre radioamateur ne doivent pas être transmises. C'est plutôt parce que la vie privée là-dedans, c'est pas à cause de la vie privée. Je pense que c'est celle-là. On fait suivant. Pensais l'avoir déjà vu celle-là. Affaiblissement linéique, ça ressemble étrangement à la première qu'on avait eue. Peut-être pas exactement la même, mais bon, je passe. Et là, donc, on voit toutes les questions auxquelles on a répondu. Donc, on a répondu à tout. Donc, on a répondu à tout, sauf à la première. Alors, normalement, on devrait péter un score, là, si tout va bien. On peut revenir sur celle-là pour voir. Ah, ben voilà, c'est bien celle-là. On est revenu à la première. C'est bien ce que je pensais. Ici, c'est là. La dernière. Voilà, ça c'est l'histoire de message. Et donc on revient à la première. Et donc bah, on va la laisser tomber, celle-là. On fait terminer. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Bah oui, mais je veux bien terminer quand même. Et voilà, donc moralité des choses, j'ai une réponse fausse, c'est la dernière, et une réponse. Où je n'ai pas répondu, c'est la une. Toutes les autres sont bonnes. Donc on va pouvoir regarder bah cette réponse-là, mon fameux affaiblissement linéique. Et là, j'ai donc la réponse. La réponse, alors peut-être c'est écrit petit sur YouTube, là peut-être, parce que sur un écran d'ordinateur normal, ça va être nettement mieux. Le commentaire, c'est la tension est divisée par 4, ce qui donne, oui, la tension ici est bien divisée par 4, ce qui donne un affaiblissement de 6 dB. Mais en fait, ce 6 dB, c'est 6 dB, c'est pas vraiment 6 dB puisque je ne suis pas en watts, je suis en volts. Or, mes 6 dB, c'est pour correspondre à un rapport de puissance, à un rapport de puissance justement, et non pas à un rapport de tension. Donc en fait, ce 6 dB, enfin, ce rapport de deux, finalement, au final, quand on regarde, enfin, si on transformait ça en watts, on aurait un rapport de 4 en termes de watts. Et c'est pour ça que cette tension, elle est divisée par 4, mais surtout, ça fait multiplier par 2. Alors, attendez. Si on était en puissance, ça me donnerait 6 dB. J'ai un rapport de 4 entre le 20 et le 5 volts. Mais comme je suis en volts, je double. Donc ça me fait 12 dB. Et ce 12 dB pour une longueur de 20 mètres, et ben ça me fait donc 0,6 dB par mètre. C'est quand même très 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 tordu ça. Ça fait partie des questions d'examen qui, moi, me semblent largement au-delà des compétences pour passer l'épreuve de réglementation. On peut regarder rapidement en cliquant ici sur cours, vous allez voir, c'est quelque chose de magique. Donc ça ouvre un nouvel onglet, ça met un peu de temps à télécharger, et on arrive directement à la bonne page, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, au passage, ça a quand même téléchargé presque 5 000. Donc, on arrive ici à l'explication dans le cours à la bonne page. C'est quand même je quitte cet onglet. Donc là il y a l'explication qui est là, ici, qui est là. C'est très très tordu, mais bon. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on n'a pas répondu? Ah, où on s'est planté, c'est celle-là. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors la réponse selon la NFR, les informations relevant de la vie privée ne doivent pas être transmises. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, j'hésitais entre les deux. Voilà, donc c'est sûrement cette réponse qui était proposée. Et si vous voulez cliquer sur le cours, là, on peut. Vous avez remarqué que c'est un peu plus rapide parce que ça a été chargé dans l'historique de navigation. Et donc, là, pourquoi c'est arrivé là, du coup? Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que là, ça arrive sur le secret des correspondances, c'est pas réellement le sujet. Ça serait, voilà, ça aurait été plutôt avant la teneur des conversations. La teneur des conversations, dedans, on n'a pas. Voilà, c'est le fait de converser entre radioamateurs et en aucun cas de transmettre des messages privés. Voilà. C'est tout ce que l'on peut dire. On va peut-être revenir sur quelques questions qui nous avaient posé problème. Donc là, le 12 mètres. Ok. Voilà. Ici, celle-là, c'était quoi? C'était QSO, bon, rien de spécial. Émission télégraphique, bon, transmettre métropolitaine. Quand on regarde là-dedans, on a le début des questions. Qu'est-ce qu'on avait de tordu? Non, on peut regarder la protection là si on veut et sur le cours, mais bon, il n'y a rien de passionnant. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, après, il n'y a rien de. Ah oui, si on va passer sur celle-là. Donc on crée de la directivité quand on rajoute des. Voilà, c'est typiquement ce qui se passe ici, puisque là j'ai mon brin rayonnant, hein, c'est mon doublet, mon antenne Yagi. Donc ici j'ai mon brin rayonnant, et j'ai des éléments parasites sur le côté. C'est le fameux côté qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, et donc. Voilà la directivité. Mon ordinateur s'est déconnecté. L'ordinateur sur lequel je passe le flux YouTube. Ça revient. Alors ouais, Zéronimo qui dit c'est pas clair, un rapport est un rapport en watts ou en volts. Ça c'est. Alors, c'est bien le problème de ces questions, c'est que pour le moment on n'a rien vu de la partie technique. Donc tant que vous n'avez pas ces notions volts et watts, c'est